RTS La Première présente Mystifica Science, un podcast de CQFD qui s'intéresse aux grandes impostures scientifiques, avec l'agente Leslie et Adrien Zerbini.
Pour les biologistes, ce serait comme une malédiction. Tous ceux qui travaillent sur le clonage deviennent fous. Et force est de constater qu'une des plus grosses falsifications scientifiques de l'histoire récente concerne effectivement le clonage humain. L'agente Leslie revient sur l'affaire Wang, qui a secoué le monde scientifique au début de ce millénaire.
Comme la question de clonage est pleine de malentendus, j'aimerais d'abord éclaircir un peu la question.
Je vous en prie.
Le 5 juillet 1996, naissait en Écosse Dolly. Dolly est une brebis, le premier mammifère cloné. C'est une révolution scientifique qui n'est pas contestée, sauf par quelques complotistes, bien entendu. La technique utilisée pour Dolly est celle du transfert de noyaux de cellules somatiques. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ah ben ça, voyez-vous, j'espérais justement que vous alliez nous l'expliquer.
Hein. Oui, c'est bien qu'il me semblait. Ça veut dire que d'un côté, on a utilisé l'ovocyte, qu'on peut appeler cellule œuf ou encore ovule, d'une brebis auquel on a retiré le noyau.
Le noyau, c'est-à-dire tout le matériel génétique, l'ADN, qui serait donc naturellement celui de la mère.
Exactement. Et d'un autre côté, on a prélevé une cellule somatique, c'est-à-dire une cellule que l'on trouve n'importe où sur le corps, d'une autre brebis. Et de cette cellule, on a gardé que le noyau. Donc, le matériel génétique entier qui a été implanté dans l'ovocyte sans noyau. Ensuite, si tu vas bien, la division cellulaire démarre dans l'ovocyte et là, on a deux possibilités. Soit on réimplante l'ovocyte dans une mère porteuse et on va faire du clonage reproductif, c'est donc le cas de Dolly. Soit on fait du clonage thérapeutique et dans ce cas, on se contente de mettre en culture les lignées de cellules qui sont en fait des clones, des cellules souches contenant uniquement le matériel génétique du noyau original.
Alors, question sans doute un peu naïve, hein, mais qu'est-ce qu'on fait de ces cellules clonées lorsqu'on fait du clonage thérapeutique? En d'autres termes, ça sert à quoi?
Mais vous savez ce qu'on dit, hein? Parfois, les questions les plus bêtes sont les meilleures.
Merci.
Le clonage thérapeutique serait le graal de la thérapie génétique. Et avec ça, on pourrait soigner de très nombreuses maladies. L'idée est de prélever une cellule sur le malade, de corriger ce qui dysfonctionne au niveau cellulaire, de produire des lignées de cellules corrigées et de les réimplanter dans le patient. Le système immunitaire du patient ne rejetterait pas ces cellules puisqu'elles sont des clones de ses propres cellules. Ainsi, il sera guéri.
Et vous avez des exemples de maladies qui seraient concernées par cette thérapie?
Il y en a énormément. Et pas uniquement les maladies génétiques rares. Par exemple, chez un diabétique, on pourrait faire des cellules capables de produire l'insuline. Ou chez les parkinsoniens, des neurones capables de produire de la dopamine. Ça fait rêver. Mais le clonage thérapeutique tel que je viens de le décrire est, à mon avis, une mystification en lui-même. J'y reviendrai.
Oui, parce que là, il faut que vous nous parliez d'une imposture avérée qui est l'affaire donc de ce fameux professeur Wang.
Et je vais rapidement vous planter le décor de cette affaire, car il a son importance. L'histoire se passe en Corée du Sud, à Séoul. Et au moment où les Écossais clonaient Dolly, donc en 1996, la Corée du Sud, comme d'autres pays d'Asie du Sud-Est, est en plein boom économique. Les capitaux étrangers affluent. On investit à tout va. Et pour tout dire, on surinvestit.
Et en 1997, c'est cette fameuse crise économique asiatique.
C'est un coup dur pour la Corée du Sud, qui a résolument eu une histoire très agitée au XXe siècle. Et l'économie plonge. Heureusement, au début des années 2000, la Corée est à nouveau debout. Et elle a les dents longues. Une ambition qui va très vite se remarquer.
Vous voulez parler des succès qu'on va connaître de Samsung, Hyundai, LG ou encore Kia.
Oui, ça c'est pour l'économie. Mais au niveau scientifique, la Corée entend bien se faire remarquer au plus vite. Et elle va débloquer énormément d'argent pour le laboratoire de Wang Woo-suk, le fameux professeur Wang.
Et alors pourquoi avoir choisi de miser tellement sur ce professeur Wang?
Eh bien, au cœur même de la crise financière, et donc avec très peu de moyens, il s'était déjà rendu célèbre en Corée. En février 1999, il a réussi à cloner une vache laitière. C'est la cinquième vache clonée au monde. Puis, en avril de la même année, il clone une vache coréenne. Ensuite, il annonce avoir créé une vache génétiquement modifiée. Elle serait résistante à la maladie de la vache folle.
Mais est-ce que ces annonces assez spectaculaires, c'est vrai, sont publiées dans des revues scientifiques, donc validées par des pairs?
Pas du tout. Mais le professeur Wang était aimé par les médias et le public suit. Et puis, rapidement, les autorités du pays emboîteront le pas. Il faut dire que Wang a le profil idéal. C'est un enfant de paysan, devenu vétérinaire puis généticien. Il est le fruit du système éducatif coréen. Et en plus, il travaille dans un domaine d'avenir, le clonage. Le gouvernement va donc doter son laboratoire très généreusement de 45 millions de dollars.
45 millions de dollars, c'est une sacrée somme. Mais aussi, j'imagine, une certaine pression sur le dos du professeur Wang.
Mais évidemment. Mais le succès ne va pas tarder à arriver. En février 2004, à Washington, devant 1000 chercheurs venus du monde entier pour le congrès annuel de l'Association américaine pour l'avancement des sciences, le professeur Wang annonce avoir réussi à créer une lignée de cellules souches humaines. L'audience est médusée.
Avant de continuer notre discussion avec l'agente Leslie, quelques explications. En 2004, lorsque Wang fait son annonce à Washington, une bonne partie de l'Arche de Noé a déjà été clonée par différents généticiens. Mais pour une raison assez mystérieuse, peut-être leur complexité, les primates résistent. Et comme vous le savez, l'homme fait partie de l'ordre des primates. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de tâtonnements et d'échecs dans le clonage des mammifères. Si l'on reprend le cas de la fameuse Dolly, les chercheurs ont dû transplanter 277 noyaux de cellules dans 277 ovocytes différents pour que seulement 30 embryons se forment et qu'un seul ne se développe jusqu'à la naissance de Dolly. Lorsque le professeur Wang fait son annonce en 2004, il précise qu'il a transplanté 242 noyaux dans autant d'ovocytes pour obtenir une seule et unique lignée cellulaire. Mais c'est une révolution. Et le 12 mars 2004, la revue scientifique Science publie la recherche de Wang. Science est avec Nature la plus prestigieuse des revues scientifiques. Toutes les études publiées y sont relues par des pairs. Autrement dit, la publication dans Science des résultats de Wang lui donne une parfaite crédibilité, comme le confirme l'agente Leslie.
C'est vrai que Science n'est pas sorti grandi de cette affaire, car pour un œil averti, il y avait déjà quelques détails un peu troublants dans cette publication du 12 mars 2004.
Alors, exemple de ces détails qui clochent?
Eh bien, il y avait beaucoup de co-signataires de l'article qui étaient de toute évidence des signatures de complaisance. Par exemple, la déléguée à la recherche de la Corée du Sud en 2004 est y créditée. Or, cette femme est une brillante botanist.
Mmh, ok, mais en même temps, les signatures de complaisance dans les études scientifiques, il y en a parfois dans des études tout à fait sérieuses.
C'est pas faux. Mais certains esprits particulièrement critiques s'interrogent. Et puis, une seule lignée de cellules souches, c'est presque un accident. Inutile de dire qu'à ce moment-là, personne ne peut répliquer l'étude de professeur Wang. Celui-ci est supposé avoir une avance technologique et biotechnologique sur le reste du monde. Mais un an plus tard, en 2005, Wang affirme avoir amélioré encore sa technique. Il déclare avoir créé 11 lignées de cellules clonées à l'aide de 185 ovocytes. En plus, Wang précise dans cette étude, parue en juin 2005 dans Science, qu'il a utilisé des cellules somatiques provenant de femmes et d'hommes d'âge varié. Autrement dit, ça n'est plus un coup de chance.
Mmh. Et alors, globalement, la communauté scientifique, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle salue l'événement ?
Oh, absolument. Plus grandement, on ose critiquer Wang, qui devient en Corée un héros national. On édite un timbre postal à son image, on lui offre un libre accès à la première classe de la compagnie aérienne nationale, Korean Air, et il se chuchote un peu partout que Wang n'échappera pas au prix Nobel.
Ah oui, ça c'est la classe.
Oui, mais ça ne durera pas. Parmi les co-signataires crédités dans les études de Wang...
Co-signataires, donc, il y avait, vous l'avez dit, cette biologiste, hein?
Oui, botaniste, à vrai dire. Mais il avait aussi Gerald Shatton, un éminent généticien de l'Université de Pittsburgh, qui, disons-le, donnait, à l'inverse de votre botaniste, biologiste, du crédit aux études de Wang. Mais voilà... Qu'en novembre 2005, Shatton annonce qu'il cesse immédiatement sa collaboration avec Wang. C'est la première fissure dans le succès de Wang.
Est-ce que ce Shatton a donné les raisons de cette rupture, entre guillemets ?
Oui. Il a déclaré que sa décision était fondée uniquement sur des préoccupations éthiques concernant les dons d'ovocytes dans les recherches de Wang.
Ah, c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de cet aspect des choses. Il faut des ovocytes forcément humains pour ces recherches.
Et Wang avait toujours dit et écrit dans ses publications dans Science qu'il s'agissait de dons d'ovocytes, de dons éclairés de femmes mises au courant des recherches de Wang. Sauf qu'un de ses très proches collaborateurs déclare avoir versé 1 400 $ à des étudiantes de professeur Wang pour obtenir ce « don », entre guillemets. Mmh.
Donc non seulement il y a la pression financière, puisqu'on va rétribuer un don, mais il y a aussi une sorte de pression académique, puisqu'en plus c'est difficile de dire non à son propre professeur.
Et cela signifie surtout que Wang a menti, au moins sur ce point. D'ailleurs, il convoque rapidement la presse pour s'en excuser. Expliquer qu'il avait menti uniquement pour protéger l'anonymat de ses étudiantes. Mais comme je le disais, l'image de Wang est fissurée. Et d'ailleurs, certaines rumeurs commencent à circuler dans l'université de Séoul.
Donc l'université où est basé le professeur Wang. Ouais. Hein. Et alors, que disent ces rumeurs au juste ?
Eh bien, en gros, que Wang n'aurait pas menti que sur l'origine des ovocytes. Et certains collaborateurs de Wang auraient raconté avoir retouché les photos pour les études publiées dans Science. La bonne blague étant de dire que Wang a surtout cloné des photos.
Ah oui, dites-moi, c'est plutôt grave ça. Et finalement, peut-être que ce ne sont que des rumeurs.
Et là, il faut reconnaître que l'Université de Séoul a pris la chose très au sérieux. elle a mené une enquête interne solide, interrogé un à un les collaborateurs de Wang. Et le résultat est sans appel. Wang a triché. Notamment dans la deuxième publication, celle de 2005. En faisant des tests ADN sur les 11 lignées de cellules clonées, l'université s'est aperçue qu'il y en avait 9 qui partageaient le même ADN. Autrement dit, il n'y avait que 3 lignées différentes et non 11 comme publié dans l'étude.
Alors évidemment, c'est problématique, c'est même très problématique tout ça, mais dans le fond, est-ce que malgré toutes ces tricheries, Wang a bel et bien été le premier généticien à cloner des cellules humaines ?
Eh bien, la question reste ouverte et de nombreux scientifiques en débattent encore. En fait, la plupart des chercheurs pensent que la deuxième publication était entièrement bidonné. Reste la question de la première étude et la première lignée de cellules clonées. Apparemment, Wang aurait utilisé un ovocyte et une cellule somatique d'une seule et même donneuse. Et il est bien possible qu'il ait obtenu cette première lignée cellulaire, mais ça serait en réalité de la parthénogenèse et non du clonage.
De la parthénogenèse, c'est donc la reproduction monoparentale, hein, c'est
oui.
De l'autofécondation qui d'ailleurs existe dans la nature.
Oui, chez certains lézards par exemple, mais pas chez l'humain. Et c'est peut-être ce que Wang a réussi.
Oui, en tout cas, Wang, fin 2005, a dû passer du stade de héros national à celui d'imposteur international.
Évidemment. Il a également dû démissionner de l'université et comme son labo avait avalé 45 millions de dollars, il a eu une enquête pour comprendre où était passé cet argent.
Et alors, résultat de l'enquête ?
Eh bien, Wang avait ouvert une soixantaine de comptes en banque et il utilisait cet argent de différentes manières, notamment pour acheter le silence de ses collaborateurs.
Mais alors apparemment, ça n'a pas très bien marché en ce qui concerne le silence.
Right. Mais pour conclure, j'aimerais vous dire 3 choses. 1. Cette affaire aura révélé que même des revues scientifiques comme Science font des erreurs. Et des erreurs qui ne sont pas purement innocentes parce que, évidemment, Science devait être ravi d'être la revue scientifique qui a publié la première étude sur le clonage humain. Et donc, elle n'a pas été assez vigilante.
Donc ça, c'est votre premier point. Ensuite
2. Je vous le disais au début de notre rencontre, il y a une mystification dans la mystification. D'une part, Wang a triché, mais d'autre part, la promesse de clonage thérapeutique est également, à mon avis, un mensonge. Vous avez bien compris qu'il faut pour chaque clonage, même pour celui d'une brebis, des centaines d'essais infructueux. Même si l'on arrive à réduire le taux d'échec, il faudrait pour chaque malade des dizaines de dons d'ovocytes. Peut-être que les femmes en âge de procréer sont très généreuses et que les dons, entre guillemets, peuvent être rémunérés. Mais ça pose des questions éthiques. Et honnêtement, cette idée est boiteuse.
Merci de nous avoir donné votre avis. Et ensuite
3. Eh bien, il y a une part de naïveté chez ce professeur Wang qui est, dans le fond, assez touchante. Cette espèce de fuite en avant dans le mensonge allait forcément être découverte. La Corée voulait un héros et il se dit qu'il avait le profil idéal, qu'il pouvait devenir ce héros, même si ses expériences ne marchaient pas si bien. Moi, il me touche, ce professeur Wang.
Bon, il sera sans doute ravi de l'apprendre. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui devient, professeur Wang ?
Eh bien, devinez. Il fait du clonage.
Surprise.
Il a monté une entreprise qui fonctionne extrêmement bien, spécialisée dans le clonage reproductif de chiens. Sa clientèle est constituée de richissimes propriétaires canins qui ne peuvent se résoudre à la mort de leur toutou préféré et qui paient une fortune pour en acheter un clone.
Ah oui, c'est assez incroyable. Et est-ce que ça marche?
Oui, financièrement, ça marche très bien. Maintenant, si vous me demandez s'il produit réellement des clones, des tutus trépassés, moi, j'en sais rien. Ce que j'essaie en revanche, c'est qu'avec les connaissances actuelles que l'on a sur l'épigénétique, je peux vous affirmer que même un authentique clone d'un tutu n'aura pas le même caractère que l'original. Mais c'est une autre histoire.
Cet épisode de Mystifica Science a été réalisé par Rodolphe Beauchaud. Éditeur numérique, Sébastien Blanc. Attaché de production, Annette Kléber. Mystifica Science est un podcast de la RTS. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le commenter et à le partager sur les réseaux sociaux. Et ne manquez pas notre prochain épisode qui sera mis en ligne lundi prochain.